Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Bonjour tout le monde, mon nom est Vincent Genjapi et bienvenue à ce deuxième épisode d'Au cœur de l'Euro. Droit à une très belle première journée de match à l'Euro 2024. On a assisté à des matchs enlevant, des victoires à la dernière minute, des David qui bat Goliath et même quelques déceptions de la part des gros morceaux de la compétition. Alors aujourd'hui, on s'attarde donc au deuxième jour de match. Alors au même titre que lors du premier épisode, on va débriefer chacun des 12 matchs disputés au cours des derniers jours de compétition. On va donc parler des équipes et des joueurs qui se sont démarqués et on va voir à quoi ressemblent désormais les groupes. Commençons d'abord avec le groupe A dans lequel on retrouve l'Allemagne, la Hongrie, l'Écosse et la Suisse. Alors, après une excellente entrée en la matière face à l'Écosse, le pays hôte, qui est l'Allemagne, a continué sur sa bonne lancée en l'emportant 2-0 face à la Hongrie. Il y a quand même eu moins de feux d'artifice que dans le match d'ouverture qui, on se rappelle, avait terminé 5-1 pour les Allemands, mais se sont livrés une prestation très contrôlée qui va sans aucun doute là, faire monter leur cote en vue des tours à élimination directe. Les buts sont venus de la jeune star du Bayern Munich, Jamal Musiala, qui récolte son deuxième but de la compétition, ainsi que du capitaine Ilkay Gundogan. La Hongrie n'a pour sa part certainement pas joué un mauvais match, mais elle était devant une équipe qui était tout simplement trop forte pour elle. Dans le second match, on retrouvait un Suisse-Écosse qui, à première vue, aurait dû tourner en faveur des Suisses si l'on tient compte évidemment des résultats du premier jour de match. Par contre, c'est plutôt l'Écosse qui va prendre les devants à la 13e minute grâce à un but du milieu de terrain de Manchester United, Scott McTominay. Il va décocher un tir à l'entrée de la surface qui sera finalement dévié par un défenseur suisse et qui va prendre à contre-pied le gardien suisse Yann Sommer. La Suisse n'aura certainement pas dit son dernier mot et va répliquer grâce à leur talisman Xherdan Shaqiri. Lui qui joue actuellement en MLS pour le Fire de Chicago, mais qui est assez détesté des partisans, est toutefois une vraie légende de la sélection suisse. Et grâce à un missile qu'il a envoyé dans la lucarne du gardien écossais Angus Gunn, Shaqiri est devenu le seul joueur européen à avoir marqué dans les derniers 6 tournois majeurs, ce qui remonte à la Coupe du Monde de 2014. Le match va donc se terminer sur un score de 1-1. À quoi ressemble donc le groupe A après 2 journées de compétition? L'Allemagne s'est assurée d'une qualification en 8e de finale et siège au premier rang du groupe, alors que la Suisse a à peu près un pied et demi dans la phase à élimination directe. Elle pourrait même usurper la première place du groupe à l'Allemagne si elle parvient à la battre lors du 3e jour de match. Quant à l'Écosse et la Hongrie, les deux pays s'affrontent aussi lors de cette 3e journée. Un nul n'arrangerait aucune vraiment des deux équipes, mais une victoire de part et d'autre pourrait voir le gagnant se frayer une place en tant que l'un des quatre meilleurs troisièmes. Passons maintenant au groupe B, dans lequel on retrouve la Croatie qui affrontait l'Albanie, ainsi que l'Espagne qui affrontait l'Italie. Commençons donc avec le Croatie-Albanie qui a été fort intéressant. L'Albanie qui avait causé quand même pas mal de tort à l'Italie malgré la défaite lors de leur premier match, a joué un bien vilain tour à la Croatie en allant accrocher le nul sur la marque de 2-2. Ce sont d'ailleurs les Albanais qui vont ouvrir le score grâce au milieu offensif Kazim Lassi. Malgré la très forte pression croate, l'Albanie a su tenir pendant une très bonne partie du match, mais a fini par flancher à seulement 15 minutes de la fin. Coup sur coup, c'est l'attaquant Andrej Kramaric qui va créer l'égalité, puis seulement 2 minutes plus tard, ce sera un but contre son camp du remplaçant Klaus Giasula, désolé pour la prononciation, qui va donner l'avantage à la Croatie. Mais finalement, à la 95e minute de jeu, essentiellement le dernier jeu du match, c'est ce même Klaus Giasula qui va rediriger un coup franc de la tête et qui va faire exploser le stade de Hambourg qui était rempli de partisans albanais. C'est un résultat qui est d'ailleurs historique pour l'Albanie, mais c'est une douche plutôt froide pour la Croatie qui se devait d'aller chercher les 3 points dans ce match qui semblait être le plus facile de son groupe. Dans le deuxième affrontement qui opposait l'Espagne et l'Italie, ça aurait été un match de la rédemption pour les Espagnols, eux qui avaient été éliminés en demi-finale du dernier Euro par cette même Italie, mais là cette fois-ci, l'Espagne va avoir le dessus sur la marque de 1-0. Malgré le score serré, ce match-là aura été une vraie masterclass espagnole, marquée par une impressionnante solidité défensive, un milieu de terrain qui garde très bien le ballon, fidèle à ses habitudes, et des attaques franchement percutantes. On mentionnait au dernier épisode comment les attaques percutantes sur les ailes, c'était quelque chose qui avait manqué à l'Espagne lors des derniers tournois. Eh bien, ils ont définitivement remédié à la situation. En défense, le latéral gauche Marc Cucurella aura totalement fait disparaître l'élément offensif le plus dangereux des Italiens, l'ailier Federico Chiesa. Et à l'attaque, comme ils l'ont fait au premier match contre la Croatie, ben les deux jeunes ailiers, Nico Williams, 21 ans, et Lamine Yamal, on se le rappelle, 16 ans seulement, ont fait faire des cauchemars aux deux défenseurs latéraux italiens en les envoyant promener à plus d'une reprise au cours du match. Le but espagnol va d'ailleurs provenir d'une superbe course de Nico Williams et son centre arrêteur sera dévié dans son propre but par le défenseur central italien Riccardo Calafiori. Avec l'Espagne qui affronte l'Albanie lors de son dernier match, tout semble indiquer que ces équipes finiront respectivement première et dernière de ce groupe B. Quant au duel Italie-Croatie, un match nul conviendrait aux Italiens, mais les Croates doivent absolument gagner s'ils veulent demeurer dans la compétition. Passons maintenant au groupe C, dans lequel on retrouve la Slovénie, la Serbie, le Danemark et l'Angleterre. Groupe C qui, comme lors de la première journée d'activité, n'aura pas particulièrement été le groupe le plus intéressant à suivre pour tout partisan neutre. Les deux matchs se seront terminés sur le score de 1-1, des scores qui ne feront pas particulièrement d'heureux de part et d'autre. Dans le premier match qui opposait la Slovénie et la Serbie, ce sont les Slovènes qui vont marquer en premier grâce à leur défenseur Zan Karnicic. Un 3 points aurait été un énorme pas pour la qualification pour cette Slovénie, mais finalement l'attaquant serbe Luka Jovic va venir jouer les troubles faites et va égaliser dans le temps additionnel sur un corner. C'est certainement un point que les Serbes vont prendre, mais ce match leur donnera davantage l'impression d'avoir perdu 2 points plutôt que gagné 2 face à une Slovénie qui était définitivement à leur portée. Et dans le match Danemark-Angleterre, on s'attendait à une meilleure prestation de la part des Anglais après leur courte victoire assez peu convaincante de seulement 1-0 face à la Serbie au premier match. Et les choses semblaient se remettre en place lorsque le capitaine Harry Kane va donner l'avance aux 3 Lions suite à un ballon libre dans la surface. Mais honnêtement, plus rien ensuite de cela. Les Danois vont revenir au score grâce à une frappe de loin très bien placée de la part du milieu Morten Humeland. Mais ensuite, plus rien du tout dans le match. Il va même avoir l'entraîneur anglais Gareth Southgate qui va faire sortir son trio offensif à la 70e minute pour donner du temps à Ollie Watkins, attaquant en pointe, Jarrod Bowen, ailier droit et Eberechi Eze, un peu plus ailier gauche. Mais ça va s'avérer être un changement plus du désespoir qu'un coup tactique ingénieux de la part de Southgate. Après le deuxième jour de compétition, l'Angleterre est malgré tout encore première grâce à une récolte de 4 points. Le Danemark et la Slovénie ont une fiche identique de 2 points avec 2 buts marqués et 2 encaissés, alors que la Serbie est dernière avec seulement 1 point. On s'arrête donc pour une courte pause publicitaire et on vous revient après la pause pour parler des 3 derniers groupes, le D, le E et le F. Rebienvenue au cœur de l'Euro, l'émission où on fait un récap de tous les matchs qui ont lieu à cet Euro 2024. On en est au deuxième jour de match, on a couvert avant la pause les groupes A, B et C. Enchaînons donc tout de suite avec le groupe D, groupe dans lequel on retrouve l'Autriche, la Pologne, les Pays-Bas et la France. Le premier match de ce groupe opposait l'Autriche à la Pologne. L'Autriche qui avait somme toute livré une très belle performance face à la France lors du premier jour de match, mais ne s'inclinant que par 1-0. Comme on en avait discuté lors du premier épisode, l'Autriche est une sélection qui est ultra intéressante à suivre au cours de cet Euro et elle a vraiment été capable de déployer ses ailes lors de ce match. L'entraîneur Ralf Rangnick avait d'ailleurs décidé de faire un changement à sa formation, remplaçant l'attaquant Mikhail Gregoric par le vétéran Marko Arnautovic. C'est un choix qui va faire beaucoup de bien à cette Autriche d'ailleurs, avec Arnautovic qui est un attaquant très costaud qui prend beaucoup de place et qui va grandement déranger les défenseurs polonais, laissant ses coéquipiers avec beaucoup plus d'espace. L'Autriche va ouvrir le score après à peine 10 minutes de jouer, mais la Pologne va répliquer à environ la 30e minute. En deuxième mi-temps, par contre, la qualité collective de l'Autriche aura finalement le dessus sur la Pologne, donc grâce à des buts du milieu offensif Christoph Baumgartner et de Marko Arnautovic sur pénalty, ben l'Autriche va trouver le moyen de remporter ce match sur la marque de 3-1. Le deuxième match était probablement le plus gros clash du groupe D, puisqu'il opposait les deux favoris, la France et les Pays-Bas. C'était d'ailleurs le match de cette deuxième journée qui était disputé à Leipzig. J'étais donc sur place dans le stade pour y assister. Et ce que j'ai à dire d'abord, c'est que j'ai été agréablement surpris par la gentillesse des partisans. Autant d'un bord comme de l'autre, en fait, ce sont quand même deux équipes avec des partisans très passionnés. Et avec la première place du groupe qui était en jeu, ben, c'est un match qui aurait définitivement pu tourner au vinaigre. Mais heureusement, tout le monde était ultra sympathique. Moi, personnellement, j'ai eu l'honneur d'être en charge de la sélection, pas de la sélection, de la section plutôt, des ultras français, puisque j'étais le seul bénévole de notre équipe qui parlait français. Et franchement, ce fut un réel plaisir là, de jaser foot avec certains de nos cousins français. Ils étaient tous très reconnaissants là, de l'organisation et du dévouement des bénévoles. Et honnêtement, ça faisait vraiment chaud au cœur à entendre. Par rapport à ce qui s'est passé sur le terrain, ben on peut malheureusement pas dire que ça aurait été le match de l'année. La France qui s'alignait sans son capitaine et meilleur joueur Kylian Mbappé, qui s'était cassé le nez lors du match contre l'Autriche. Il était quand même sur le banc, mais il n'est jamais embarqué sur le terrain. À la place de faire un changement poste pour poste, l'entraîneur Didier Deschamps a plutôt rajouté un autre milieu de terrain 11 partant en la personne d'Aurélien Tchouaméni. Il a ensuite mis Adrien Rabiot, qui est habituellement un milieu de terrain, dans le rôle de Mbappé sur l'aile gauche. C'est une disposition tactique qui faisait beaucoup penser à la France de 2018, qui avait justement remporté la Coupe du Monde en jouant un milieu défensif, Blaise Matuidi, sur l'aile gauche. On avait Antoine Griezmann en milieu offensif, Kylian Mbappé sur l'aile droite et Olivier Giroud en pointe. Au final, Adrien Rabiot a joué un très bon match au niveau défensif, mais il était assez évident qu'il manquait un élément essentiel à l'attaque française. Ousmane Dembélé n'était pas dans une grande forme sur la droite. Antoine Griezmann a assez manqué de lucidité devant le but et Marcus Thuram en pointe n'a pas su être l'attaquant pivot style Olivier Giroud sur laquelle la France s'appuie depuis tant d'années. Du côté néerlandais, ce fut une performance plutôt standard de leur part. Ils croyaient d'ailleurs avoir ouvert le score à la 70e minute grâce à leur jeune starlette Xavi Simons, mais le but sera finalement refusé par l'assistance vidéo car un joueur néerlandais était dans une position de hors-jeu qui gênait le gardien français Mike Maignan. C'est une décision qui n'a certainement pas fait l'unanimité, mais il aurait été quand même difficile de prendre la décision contraire pour l'arbitre du match. Après donc 2 jours de match, les Pays-Bas demeurent au premier rang dans le groupe D, mais seulement grâce à leur nombre de buts marqués. Ils sont suivis par la France, l'Autriche et finalement la Pologne. Avec la victoire de l'Autriche, il y a de très bonnes chances que 3 équipes, plutôt que seulement 2, se qualifient pour les 8e de finale dans ce groupe, mais ça, on verra ça lors de la 3e journée de match. Passons maintenant au groupe E. Groupe E qui, à première vue, ne semble pas nécessairement comme le plus intéressant à suivre. On y retrouvait l'Ukraine, la Slovaquie, la Belgique et la Roumanie. Eh bien, cette 2e journée de match aura vu le groupe devenir le plus serré de toute la compétition et aura définitivement augmenté le niveau d'intérêt pour les fans neutres. D'abord, l'Ukraine voulait faire oublier sa contre-performance contre la Roumanie en affrontant d'abord la Slovaquie. Ça va toutefois commencer plutôt mal pour les Ukrainiens qui vont se retrouver à tirer de l'arrière après seulement une quinzaine de minutes, gracieuseté du 2e but du tournoi d'Ivan Schranz. Il ne restera donc qu'une mi-temps à l'Ukraine pour essentiellement sauver son euro. D'abord, ce sera le milieu défensif Mykola Chaparenko qui va remettre les équipes à égalité à la 54e minute avant de délivrer une superbe passe décisive à Roman Yaremchuk à la 80e minute. Les Ukrainiens vont donc parvenir à revenir de l'arrière et l'emporter assez héroïquement sur la marque de 2 à 1. Au même titre de l'Ukraine, la Belgique, au même titre que l'Ukraine, la Belgique voulait aussi se reprendre suite à sa défaite en match d'ouverture contre la Slovaquie. Cette fois-ci, ils vont livrer une très belle performance, très contrôlée, face à une surprenante équipe de la Roumanie. Ça ne prendra même pas 2 minutes aux Belges pour ouvrir le score grâce à une superbe frappe à l'entrée de la surface du milieu, Youri Tielemans. La défense belge va ensuite parvenir à limiter les dégâts à l'arrière malgré les quelques attaques plutôt dangereuses de la Roumanie. Puis, avec 10 minutes à jouer, ben c'est le gardien belge, Koen Casteels, qui va tout simplement dégager le ballon le plus loin possible. Celui-ci va tomber dans les pieds du capitaine et milieu offensif de la Belgique, Kevin De Bruyne, qui va partir en échappée et battre le gardien roumain. 2-0 score final pour la Belgique et les Diables Rouges qui sont donc, à ce moment même, de retour dans la compétition. Après la 2e journée, les quatre équipes du groupe E sont donc à égalité avec 3 points. Il y a seulement le différentiel de but qui peut les départager. On a donc la Roumanie en première, la Belgique en 2e, la Slovaquie en 3e et et l'Ukraine en quatrième. Une chose est sûre, la dernière journée de match dans ce groupe ne sera certainement pas à manquer. Terminons donc finalement avec le groupe F, dont le premier match opposait la Géorgie à la Tchéquie. Malgré sa défaite lors du premier match, la Géorgie avait démontré vraiment de belles choses face à la Turquie et va continuer dans la même longueur d'onde, très solide à la défense et redoutable sur les contre-attaques. C'est d'ailleurs eux qui vont ouvrir le score dans le temps additionnel de la première mi-temps. Il va avoir une main dans la surface du côté tchèque, pénalty accordé et converti par l'attaquant Georges Mikotadze. C'est donc son deuxième but en autant de matchs pour la Géorgie à 7 euros. La Tchéquie va toutefois continuer à appliquer beaucoup de pression au retour des vestiaires et va finalement égaliser à la 60e minute grâce à son attaquant vedette Patrick Schick. Il va être au bout d'un ballon qui va rebondir un peu partout dans la surface du gardien et il n'aura qu'à le pousser dans le but avec sa hanche. Le match va se terminer 1-1, mais un joueur géorgien va particulièrement faire les manchettes pour sa performance héroïque. Ben, c'est le gardien Georgi Mamardashvili. Désolé encore une fois pour la prononciation. Le portier de seulement 23 ans vient de vivre sa meilleure saison en carrière avec nul autre que Valencia en Espagne, équipe de première division. Et il fera définitivement beaucoup parler de lui suite à ce match où il a effectué pas moins de 11 arrêts. Plusieurs d'entre eux étaient extrêmement spectaculaires. Dans le tout dernier match de cette deuxième journée, le Portugal a bien pris le contrôle du groupe en l'emportant assez facilement 3-0 face à la Turquie. La Turquie, qui avait pourtant livré une superbe performance face à la Géorgie, avait décidé de reposer quelques-uns de ses meilleurs joueurs, dont les deux jeunes pépites Kenan Yildiz et Arda Güler, qui avaient commencé le premier match sur les ailes. Bernardo Silva va donner l'avance aux Portugais après une vingtaine de minutes de jeu, avant que la défense turque se tire littéralement dans le pied. Le défenseur Samet Akaydin va tenter une passe en retrait à son gardien Altay Bayindir, mais sans réaliser que le gardien n'était pas dans son but. Il s'était déplacé sur le côté pour recevoir la passe justement, mais la passe de Akaydin en direction du but. Le ballon va rouler jusqu'au fond du filet sans que le gardien ne puisse faire quoi que ce soit par rapport à ça, et ça va faire 2-0 pour le Portugal. En deuxième mi-temps, c'est Cristiano Ronaldo qui va se présenter en échappée devant le but turc et à la place de Thierry, il va tout simplement passer à son coéquipier Bruno Fernandes qui était à côté de lui et qui va conclure dans une cage vide. Ronaldo va du même coup devenir le meilleur passeur de l'histoire de l'Euro, lui qui tenait également déjà le titre de meilleur buteur. Voici donc à quoi ressemble désormais le groupe F. Le Portugal s'assure de sa première place dans le groupe. La Turquie demeure deuxième avec 3 points, alors que la Tchéquie et la Géorgie sont respectivement troisième et quatrième avec 1 point chaque. C'est donc tout pour ce deuxième épisode d'Au cœur de l'Euro. J'espère encore une fois que vous aurez autant aimé l'écouter que j'ai aimé le réaliser. Sur ce, on se donne rendez-vous mercredi le 3 juillet prochain pour discuter du dernier jour de match des phases de groupe. On survolera rapidement le tableau des huitièmes de finale et on se mouillera aussi un peu avec quelques prédictions en vue de ces huitièmes de finale. Ici donc Vincent Gengepi qui vous dit à la semaine prochaine!